Donc, c'était un honneur pour moi de m'inviter à venir prêcher. Donc, on passe à la deuxième partie, change de chapeau. Ce sont la face de Dieu. Donc, vous voyez déjà le titre qui apparaît. Et pourquoi j'ai décidé de prêcher sur rechercher la face de Dieu? On va attendre que les jeunes s'en aillent. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous demande de chercher sa face. Et j'ai hésité avant de prêcher là-dessus parce que je me disais, je ne suis probablement pas à la hauteur de prêcher sur la recherche de la face de Dieu. Parce que bon, c'est difficile d'évaluer mon niveau de ma relation avec Dieu, combien je suis proche de Dieu, combien je recherche Dieu. Et moi-même, je ne suis pas conforme à 100% parce que la Bible dit chercher continuellement sa face. Et je me disais, s'il faut que j'attende, chercher continuellement sa face, personne ne va prêcher là-dessus. Donc, on va y aller. Et en scrutant ça, donc j'ai trouvé beaucoup de matériel. J'en ai même pour deux messages. Le premier ce matin, l'autre, je ne sais pas quand. Donc, et c'est pour ça que j'ai mis « cherchons la face de Dieu ». Je n'ai pas mis « chercher » dans le sens que je m'inclus. Je veux m'inclure dans ça, comme si j'étais assis dans la salle ce matin en train de m'écouter. « Cherchons la face de Dieu », donc je m'inclus. Et tout simplement, j'ai décidé d'aborder le sujet comme ayant moi-même besoin d'être enseigné sur le sujet. Et je vais vous partager mes réflexions, les recherches que j'ai faites à ce sujet-là. Donc, je vous invite à m'accompagner dans le petit exposé que je vais faire de ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est un sujet très vaste. Chercher la face de Dieu, on pourrait prêcher longtemps là-dessus. C'est ça qui est primordial dans la vie chrétienne. Et on voit que c'est la face de Dieu, hein? C'est pas marqué chercher la tête de Dieu, chercher le dos de Dieu ou le cou de Dieu. Ça marquait la face de Dieu. Pourquoi la face? Supposément, vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour, ça va, puis la personne dit oui, très bien, puis il vous parle comme ça. Là, vous ne voyez pas sa face. Ou que le matin, je vais prêcher, bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez passer une bonne matinée. Ça va être super plate. Okay? Donc, la face, le visage, ça. C'est le reflet de l'âme, le reflet de la personne, l'expression. On s'exprime un peu avec nos mains, en bougeant, ou nos pieds, mais l'expression primaire, principale, vient du visage, de la face. Dieu n'a pas de face comme nous. C'est sûr que lorsqu'il s'est fait homme, dans la personne de Jésus, Jésus reflétait la gloire, l'image du Dieu créateur, étant lui-même le créateur. Donc, on a vu une face humaine, mais Dieu n'a pas de visage d'homme comme tel. Sa face nous représente sa personne, son intimité, ce qu'il est dans le plus profond de lui-même. Et nous avons un texte ici qui nous encourage ou qui nous demande de chercher sa face. Donc, dans le psaume 105, versets 3 et 4, nous lisons « Glorifiez-vous de son saint nom ». Donc, nous nous glorifions de sa personne. On a chanté son nom tout à l'heure avec François. Merci François pour le temps de louange, d'adoration en passant. François a remplacé un peu dans la minute de la personne qui devait faire ce matin. Il y a eu un conflit d'horaire, donc François a accepté de remplacer. Merci. Donc, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Donc ici, on a trois cherchés, hein, que ceux qui cherchent, verset 4, rechercher et encore chercher continuellement sa face. Donc, dans ces deux versets-là, on a trois fois les mots rechercher ou chercher. Si vous voulez, on va prier avant d'aller plus loin. Notre grand Dieu, on veut te remercier pour le temps qu'on a pour venir devant toi et scruter dans ta parole qu'est-ce que tu as à nous dire sur chercher ta face. Ô notre grand Dieu, tu te réjouis quand tes enfants veulent te connaître davantage, en savoir davantage sur toi. Non pas seulement prendre ce que tu nous donnes, mais essayer de comprendre ce que tu es, combien tu représentes pour nous, combien on peut t'aimer en retour, combien on peut t'adorer. Ô notre Dieu, on te prie de te révéler à nous davantage ce matin. On comprend qu'on va te connaître au complet lorsqu'on va être dans ta présence. Mais en attendant, Seigneur, nous te prions que par ton esprit, tu nous éclaires nos cœurs, afin afin qu'on voit davantage ta grandeur, de voir tel que tu es davantage. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça vous dit quelque chose? Facebook. Donc, Facebook, il y a le mot « face » là-dedans. Hein? Facebook. Et Facebook a été fondé en 2004 par un étudiant de l'Université de Harvard. Et il ne pensait pas que ça prendrait ces dimensions-là. Et lorsqu'il l'a fait, Facebook, c'est un peu comme on l'a aujourd'hui, mais il voulait le limiter aux étudiants de l'université. En fin de compte, ça s'est répandu à d'autres universités, puis en fin de compte, c'est rendu au monde. Mais le nom, où il a pris le nom de Facebook, c'est qu'aux États-Unis, lorsqu'il commençait l'année universitaire, il faisait un genre de bottin. Nous, on a un bottin téléphonique, un genre de bottin dans lequel il y avait le visage, la photo de chaque étudiant, avec peut-être son adresse, numéro de téléphone, si on voulait le rejoindre. Donc, il appelait ça le Facebook. Ça s'appelait Facebook déjà. Donc, en français, on pourrait l'appeler livre de face. OK? Et à la fin de l'année, ici, chez mes filles au Québec, on faisait ça. Il y avait le yearbook, year pour année, le livre de l'année, où on avait encore là les photos et qu'est-ce qui s'était passé dans l'année écoulée. Alors que le Facebook, c'était au début de l'année, c'était rien passé. Mais ça permettait aux gens de communiquer entre eux, d'avoir des adresses, un peu le profil de chacun, de communiquer. Donc, cet étudiant-là a décidé de mettre ça, de créer un site Internet qui s'appellerait, qui aurait le même nom que le livre, Facebook, pour que les gens puissent communiquer avec eux. Et il a mis le mot « face » parce que la face est importante. Vous regardez quelqu'un sur Facebook, quand vous voyez sa photo, ça vous en dit un peu sur lui. Personnellement, je n'ai pas mis ma photo encore. Ça vaut trop cher. J'ai mis d'autres choses. Mais je ne l'utilise pas beaucoup. Sinon, je trouve ça pratique pour communiquer avec mes frères et sœurs. J'ai un frère en Gaspésie, j'en ai un à Rimouski, j'ai deux sœurs dans la région de Québec. Donc, ça me permet de rester au courant un peu de ce qui se passe dans leur vie. Okay? Et avec mes enfants, on utilise d'autres choses. Mon épouse, c'est WhatsApp qu'on appelle. Donc, ça nous permet de communiquer, de se voir un peu la face, de savoir qu'est-ce qui se passe, et d'entretenir les relations, d'entretenir l'intimité. Parce qu'on est tous des êtres relationnels, et si on est comme ça, c'est parce que Dieu nous a créés ainsi. Et on a besoin de relations les uns avec les autres, et au plan horizontal et au plan vertical, relations avec Dieu. Et Dieu veut avoir cette relation avec nous. C'est pour ça qu'il est descendu du ciel sur la terre pour nous parler et pour nous attirer à lui. Okay? Et le confinement qu'on a vécu à cause de la crise sanitaire, ça nous a tous permis de réaliser davantage à quel point on avait besoin les uns des autres. On avait besoin, quelqu'un me disait tantôt, « Ah, c'est la première fois que je reviens à l'église. » Tu sais, c'était comme un besoin de revoir les frères et sœurs. Mes petits-enfants m'ont manqué, mes enfants m'ont manqué pendant ça parce qu'on était séparés. On ne pouvait pas se voir. C'était une période où on ne pouvait pas voir grand monde. Donc, ça nous a montré combien on avait besoin les uns des autres. Nos groupes maisons, on l'a fait sur Zoom. Zoom nous a dépanné, heureusement, mais c'était pas pareil. C'était pas comme être là et pouvoir se parler, entendre. Même les partages, c'était pas pareil sur Zoom qu'en vrai. Donc, on a besoin de relationner. Un peu comme le petit enfant qui a besoin du sourire de son père et de sa mère. Un enfant qui grandit sans voir de visage gentil, qui sourit. Il y a un manque. Il y a vraiment un manque qui est grand là. Et même nous, on est contents quand on réussit à faire sourire le petit bébé pour la première fois. « Hey, j'ai réussi! » On est tous fiers de ça. Donc, est-ce qu'on peut chercher la face de Dieu? Mais on ne le voit pas. On ne peut pas le voir. Dans Jean, on lit que Dieu est esprit. Et dans 1 Timothée, on voit qu'il est éternel, invisible. C'est quoi cette affaire-là, chercher la face de Dieu? Donc, c'est pour ça qu'il nous appelle à chercher. Hein? Il nous appelle à rechercher. Donc, on va regarder ce que ça veut dire « chercher ». Donc, la définition de « chercher », parce qu'il nous dit « pour chercher Dieu », ça veut dire, dans le fond, essayer de trouver quelque chose ou quelqu'un. Je ne l'ai pas ou je ne l'ai pas beaucoup, mais je veux l'avoir davantage, je veux le trouver. Okay? Dans le Petit Larousse, ça dit « s'efforcer de trouver, de retrouver, de découvrir ». Donc, il me manque quelque chose que je désire, dont j'ai besoin. Des fois, j'ai perdu quelque chose. « Ah! » Telle affaire, oh, j'en ai besoin absolument, il faut que je le trouve. Je fais juste ça, il faut que je le trouve. Donc, on cherche, on recherche. Okay? Donc, c'est se donner la peine. Des fois, on peut perdre quelque chose, oh, j'en ai un autre. Pas grave. Donc, on ne donne pas la peine. Mais quand on a une chose précieuse qu'on perd, on veut la retrouver. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Donc, Jésus nous encourage à chercher. Il ne dit pas, vous trouverez même si vous ne cherchez pas. C'est sûr que la Bible dit que Dieu s'est laissé trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas, un peu comme nous, moi. Mais ça ne veut pas dire qu'un coup qu'il nous a trouvés, qu'on doit dire, hey, tu m'as trouvé à cette heure, je ne te cherche plus. Non. Chercher, avoir une relation avec lui. Donc, ici une citation de Daniel Anderson, qui est un pasteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Transformons nos prières », un livre très, très bon sur l'adoration. M. Anderson nous dit « La face de Dieu fait référence à sa sainteté, ce qu'il est, et à sa présence intime manifestée aux humains sur la terre. » Donc, sa face, c'est son intimité, sa présence qui est manifestée aux humains. Et Dieu veut montrer sa face, les anges le voient, il veut que les humains sur la terre voient sa face. Une autre citation de M. Anderson. À mon avis, chercher la face de Dieu de nos jours consiste à préparer notre cœur à le chercher en l'adorant de façon biblique. Donc, si notre cœur n'est pas disposé, si on a du péché dans notre vie, si on ne veut pas le chercher, c'est sûr qu'il ne se révélera pas à nous, il ne nous forcera pas. Donc, il faut disposer nos cœurs. Donc, on fait ça aussi en nous soumettant entièrement à la direction de son esprit, tout en désirant le connaître et l'aimer davantage. Donc, lorsqu'on a un désir de soumission à Dieu, qu'on a un désir de l'aimer davantage, on le cherche. C'est un peu ça. Dieu veut se révéler à ces gens-là lorsqu'on a une attitude de cœur pour le trouver et qu'on réalise, on réalise qu'on a vraiment besoin de lui. Donc, chercher la face de Dieu signifie chercher une plus grande intimité, mais c'est pas juste ça aussi, parce que le but que je voulais, c'était plutôt mettre l'accent sur l'intimité avec Dieu, présence. Et en faisant des recherches, je me suis aperçu que le psalmiste, des fois, il cherchait Dieu, pas juste pour l'intimité, mais il cherchait Dieu pour ses besoins. David était vraiment souvent dans le besoin, donc il cherchait Dieu pour ses besoins. Donc, je crois que c'est correct de chercher Dieu aussi pour les besoins, pour qu'il nous bénisse, qu'il nous donne sa puissance, sa force. Et nous, nous sommes probablement en train de chercher Dieu pour nos besoins. C'est pour ça que je disais que c'est important de prêcher sur chercher Dieu pour lui-même. Mais étant donné qu'il y a les deux, on va parler des deux. Le danger, c'est de le chercher uniquement pour nos besoins et de ne pas le chercher pour lui-même. Mais ce matin, on va voir que Dieu donne à ceux qui cherchent sa face. Et Dieu nous donne des bénédictions et des bienfaits. Et dans un autre message, je vais parler plus de chercher sa présence, son intimité. Maintenant, on va regarder tout ce que Dieu nous donne lorsqu'on cherche sa face. Excusez-moi. Donc, on va relire notre psaume, chapitre 105, versets 3 et 4. Verset 3, « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel se réjouisse. » Donc, on voit ici que lorsqu'on cherche Dieu, il nous donne de la joie. Un effet secondaire indéniable, lorsqu'on se rapproche de Dieu, il nous donne de la joie. « Recherchez l'Éternel et sa force. » Donc, ce n'est pas juste sa présence, c'est sa force, sa puissance. Il termine, mais là, il dit « chercher continuellement sa face », là, c'est comme un feu d'artifice à son summum, là, c'est continuellement sa face, ça couvre tout. Mais on va regarder sa force ici. Donc, il nous dit qu'on doit rechercher sa force. Je me demande dans mes notes. Donc, sa force, c'est aussi sa force, c'est sa protection, délivrance dans le danger. C'est aussi sa force pour résister à la tentation. C'est aussi sa force pour nous soutenir dans l'épreuve. On a besoin de son aide pour ne pas sombrer dans le découragement. L'épreuve peut être là, elle peut durer longtemps. Donc, on a besoin de sa force pour résister dans l'épreuve. OK? Et j'ai un autre psaume, mais je vais revenir tout à l'heure à celui-là. Psaume 63, versets 1 et 2. Ici, David était éprouvé parce qu'il était dans le désert de Juda. Et Saül courait après lui pour le tuer. Et on se souvient que Saül était jaloux de David, parce que David avait plus de résultats à la guerre, et les gens louaient David, et Dieu avait même oint David par le biais de Samuel. Mais Saül voulait le tuer. Et ici, il était menacé de mourir. Et voilà qu'est-ce qu'il a écrit. Homme de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, c'est ça qu'il nous dit qu'il était poursuivi par Saül. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, parce qu'il avait vraiment besoin. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est sûr qu'il cherchait aussi la relation avec Dieu, mais il cherchait également la protection. Il avait besoin de Dieu. Ensuite, nous revenons à notre psaume 105. Et ici, on dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Donc, ils disent, cherchez l'Éternel, mais réjouissez-vous en même temps. Donc, le fait de rechercher l'Éternel, ça nous donne de la joie. Et le cœur de ceux qui sont attachés à Jésus est rempli de joie. Plus on est près de lui, plus il nous donne de la joie. Sauf que venir à Dieu, chercher sa face, ça implique un renoncement à nous-mêmes. Là, vous allez me dire, Yvan, là, ça ne marche pas. Là. Renoncement à nous-mêmes, joie. Mourir à nous-mêmes, joie. Ça semble contradictoire. Mais il y a de la joie dans le renoncement. Et je vais vous citer ici un auteur, David Platt, P-L-A-T-T. Il n'est pas Platt vraiment dans son livre. Son livre qui s'appelle « Suis-moi ». C'est un livre sur l'évangélisation qui est très, très, très bon, qui nous remet en question, qui nous remet droitement. Donc, il dit, lui, parce qu'il parle beaucoup de renoncement, il dit « Lorsque nous mourons à nous-mêmes et vivons pour lui, nous découvrons une joie indescriptible, nous ressentons une satisfaction profonde et nous réalisons notre dessein éternel. » Donc, comme je disais, ça semble paradoxal, mais lorsqu'on renonce à nous-mêmes, bien, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez renoncé à vous-même, imaginez-vous la joie que vous avez eue à ce moment-là. Donc, on n'a pas la joie de Dieu à moins de renoncer à nous-mêmes. Et il dit, nous découvrons une joie indescriptible qu'on ne peut pas humainement décrire. Il n'y a pas de drogue ou de boisson ou n'importe quoi sur terre qui va nous procurer une joie aussi forte que celle que Jésus peut nous donner. Et nous ressentons une satisfaction profonde, satisfaction, et nous réalisons notre destin éternel parce qu'on a été fait pour ça, pour vivre dans la joie avec Dieu. Donc, vous avez sans doute tous été remplis de joie le jour de votre salut. Je me rappelle, il y a plusieurs années, 45-46 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai demandé de me sauver, j'étais couché dans mon lit, c'est comme s'il y avait de la joie qui sortait de moi et qui roulait comme ça de chaque côté du lit, là. Pas de bon sens, comment j'avais jamais eu autant de joie comme ça dans ma vie. Et donc, oui, son esprit en nous donne beaucoup de joie. Et cette joie-là était causée par le fait que Jésus venait de me sauver, m'avait délivré des griffes de l'ennemi pour m'amener dans son royaume. Et on peut penser aux gens, les Juifs, qui étaient prisonniers des nazis dans les camps de concentration. Lorsque les alliés sont arrivés pour les délivrer, combien ils devaient être joyeux. Parce qu'ils étaient sur le bord de mourir, hein, s'ils restaient là. Donc, la joie, la délivrance amène la joie. Et on serait vraiment triste et angoissé si aujourd'hui on nous disait, bon, vous êtes perdu, Jésus, là, ça n'existe pas, il n'y a rien de ça. Là. Non. C'est Paul qui disait, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, le salut nous donne une joie en Dieu. Donc, le fait qu'on ait cherché Dieu, ça nous a donné cette joie-là. Et on lit dans le psaume 51, le roi David, qui avait perdu cette joie-là, parce qu'il était tombé dans le péché. On se souvient que David avait été adultère, il avait convoité la femme de Uri, Bathsheba. Il l'avait fait venir à lui, il avait couché avec elle, il était tombé enceinte. Et pour couvrir son péché, il a fait tuer Uri, son mari, et il a pris sa femme par après. Mais quand le prophète Nathan lui a fait réaliser à quel point il était pécheur, là, il est revenu dans le psaume 51, c'est le psaume dans lequel David reconnaît son péché. Il dit au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc, après avoir remis son péché, c'est comme il avait perdu la joie de son salut. Il avait perdu la joie que le Saint-Esprit lui procurait. « Rends-moi ça. » Donc, ça peut que ça arrive, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, que, on ne sente plus la joie. Comme si on est triste, on n'a plus de joie de notre salut, on ne sent plus de zèle. À ce moment-là, on dit, « Seigneur, sonde de moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, sonde-moi, lui donne la loi de nous sonder et de vérifier, de nous révéler qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui accroche, quel est le péché qui nous éloigne de lui. » Donc, le péché nous cache la face de Dieu bien souvent. Et quand le Seigneur, quand on le confesse, que le Seigneur nous pardonne et on retrouve cette joie qu'il y a d'être contempler la face de Dieu. Aussi, on peut se réjouir en espérance. C'est dans Romains 12, verset 12, Paul dit, « Réjouissez-vous en espérance. » Parce que dans le quotidien, il n'y a pas toujours raison de se réjouir. Et on sait que l'apôtre Paul a été lapidé, fouetté plusieurs fois, et ridiculisé, mis en prison. Donc, « Réjouissez-vous en espérance. » Donc, sa joie était... Et l'espérance, c'est pas « j'espère que ça va arriver », c'est « j'ai une espérance solide, une âme solide de l'âme, qui est Jésus-Christ, et je sais que le futur va être mieux, et j'ai une joie à cause de ce qui s'en vient, que Jésus va venir me chercher, soit par l'enlèvement ou par une mort physique. Et un jour, on va être parfaitement heureux, et un jour, on n'aura plus besoin de chercher la face de Dieu, on va être dans sa présence. On va être en présentiel, pour utiliser un mot qu'on utilise depuis 2 ans. Donc, on va être dans sa présence. On ne sera plus limité par nos limitations physiques. Donc, dans la présence de Dieu. C'est ça notre espérance et c'est ça qui fait qu'on peut continuer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'avais prêché sur le ciel, parce que quand on réalise qu'est-ce qu'il y a et le ciel, nouveau ciel, nouvelle terre, ça nous dit « waouh ». J'ai hâte d'être là. Donc, qu'est-ce que je vis actuellement? Oui, ça peut être difficile, mais le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite, parlant de joie encore, quand on lit Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et qu'est-ce qui vient après? La joie. Donc, tout de suite après, l'amour est le plus important. Mais celui qui vient après, c'est la joie. Donc, il y a une importance ici. Quand cet esprit est vraiment en nous, qu'on trouve la face de Dieu, on a cette joie-là. Donc, sa présence nous donne la joie. On pense parfois que Dieu est un rabat-joie. Et quand on parlait du Seigneur au début de l'Évangile, arc! C'était un rabat-joie pour moi. C'était ouf! Pas de fun là-dedans, là? Je ne ferais plus ma musique avec mes chums, puis me laisser aller faire n'importe quoi. Là, on va être limité. Ça ne sentait pas bon. Et l'apôtre Paul dit que la prédication de l'Évangile, c'est une odeur qui ne sent pas bon pour les non-croyants. Mais pour nous, c'est la vie. OK? Et Dieu n'est pas rabat-joie quand on le découvre. Dieu est la joie. Donc, on pense des fois que la vie chrétienne, même, c'est plein d'interdictions. Souvent, quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, vous autres, dans votre religion, là, ça a l'air que vous êtes obligés de faire ci, vous êtes obligés de ne pas avoir de relation avant de vous marier, vous êtes obligés de donner 30%, vous êtes obligés de donner 10% de votre revenu. Non, non, non. On peut donner plus si on veut. Pas obligé. Bon, on n'est pas obligé de donner 10%, on peut donner moins. Qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur? Donc, on pense que c'est une série d'obligations, alors que c'est une série de c'est privilèges. C'est la vraie vie est en Jésus. Donc, on voit simplement qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on voit. C'est sûr qu'il y a des choses que je faisais avant, que je ne fais plus. Moi, je suis un chasseur, puis j'étais braconnier un petit peu. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Et je trouve ça dur des fois. Parce que des fois, j'aimerais ça rappeler mon congélateur, il y aurait beaucoup d'occasions. Non, non, le règlement est là, c'est pour tout le monde. Le Seigneur a mis ça là pour que, bon, il en reste pour tout, il y en ait pour tout le monde. Donc, tu vois, c'est un renoncement-là. Mais ce que j'ai en retour, le Seigneur me comble quand même beaucoup. Et il pourvoit nos besoins, c'est sûr. Maintenant, on va aller avec le psaume 105, verset 5. « Heureux, je parle encore de joie, celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Wow! À fond, tous ceux ici qui avaient été appelés à Jésus, vous êtes heureux, bénis, vous avez été choisis et vous avez été admis en sa présence. Donc, c'est la parole de Dieu nous dit que nous sommes maintenant en Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Donc, nous sommes en sa présence, nous sommes sauvés, son esprit est en nous, Jésus est en nous. Un jour, on sera, comme je disais, présentiel, vraiment face à face, proche. On le verra tel qu'il est, à ce moment-là, on va être transformé, on va devenir comme lui. Et plus on est près de lui, plus on voit, goûte à sa, on voit sa face, plus on lui ressemble. C'est pour ça qu'un jour, on va être comme lui, parce qu'on va vraiment le voir face à face, il va nous transformer complètement. Donc, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Nous nous rassasirons, ce n'est pas ici de masculin, mais c'est du bonheur de ta maison. Nous rassasier, est-ce un mot plus fort que ça, pour dire qu'on va être comblé, satisfait. Rassasier, là, on en a assez, et on est heureux. Et qu'est-ce qui nous rassasie? C'est le bonheur que nous donne la présence de Dieu. Des fois, il y a des versets comme ça, je lis ça, moi, je ferais s'accrocher là-dessus, je ne suis pas capable de démarrer. La misère à finir mon chapitre, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans qui nous touchent. Donc, nous voulons être là où tu es, dans ton sanctuaire. Et c'est un peu drôle parce que lorsque David a écrit ça, il n'y avait pas de temple. Il dit « la sainteté de ton temple ». Parce que David voulait construire le temple, en fin de compte, il a ramassé les matériaux, il a fait des plans, mais c'est son fils Salomon qui a fait le temple. Et quand David a écrit ça, il n'y avait pas de temple. Mais le temple, on peut aussi le traduire dans la Bible sommaire par palais ou sanctuaire. Donc, David avait déjà dans sa tête, dans son cœur, le temple de Dieu, même s'il n'existait pas. Donc, même si on ne voit pas Dieu, on sait qu'il est là. Et même lui, même si le temple n'existait pas, il l'imaginait, il le voyait. Mais comme je dis, on peut traduire aussi par palais. Donc, c'est un endroit où Dieu habite, qui est majestueux, qui est très grand. On peut traduire aussi par son sanctuaire, là où Dieu est. Donc, est-ce que c'est égoïste de chercher la face, de chercher la joie en Dieu? Comme je l'ai déjà dit à d'autres reprises, on a été créé pour être heureux et vivre dans un bonheur parfait. Mais on a perdu cela à cause de la malédiction apportée par le péché. Mais on demeure quand même, c'est dans notre ADN, on est attiré par ce qui procure de la joie. Et qu'est-ce qui procure de la joie? Des fois, ce sont des idoles qui remplacent Dieu. Des fois, ça peut être des bonnes choses qui nous procurent de la joie, mais pas une joie aussi indescriptible que celle que Dieu peut nous produire. J'ai parlé tantôt de M. David Platt dans son livre « Suis-moi ». Il a énuméré une source, excusez-moi, je vais moucher, ça va être fait. Il a énuméré quelques sources de plaisir que Dieu nous donne sur cette terre. Dieu nous a donné des papilles gustatives. Lorsqu'on mange, on goûte, c'est bon. Dieu n'était pas obligé de faire que ça goûte bon. Il a fait juste nous donner le goût d'avaler. Mais Dieu a fait que quand on mange, ça goûte bon. Merci Seigneur. Donc Dieu a fait les couleurs dans la nature, nous a donné des yeux pour voir les couleurs dans la nature, les arbres, pour voir les personnes, voir les gens, apprécier les beaux paysages, voir où est-ce qu'on va. Les oreilles pour entendre. Si vous n'avez pas d'oreilles, vous ne pouvez pas entendre ce que je suis en train de dire. Écouter de la belle musique, l'apprécier. Une bouche pour parler. Donc, Dieu nous donnait du plaisir aussi dans la communion fraternelle, le fait d'avoir des amis, des frères et sœurs, d'avoir un conjoint, conjointe. Donc, il y a beaucoup de plaisir sur cette terre que Dieu nous a donné, puis il veut qu'on en profite. Des gens qui sont plutôt ascètes, on va dire, comme Paul en parlait, ils prescrivent de ne pas se marier, ils disent des choses qui se privent de certains aliments. Donc, il peut sembler, prime abord, waouh, les autres, ils ont l'affaire, mais c'est la fausse piété. Donc, Dieu veut qu'on profite des choses qu'il nous donne, sans en abuser, et il veut que ce soit une action de grâce, qu'on lui rende grâce pour cela. Et je vais vous citer M. Platt. Après avoir donné la description de toutes les belles choses que Dieu nous donne, les sens et tout ça, il dit, « Nous sommes programmés pour rechercher tous ces plaisirs. Mais n'oublions pas que notre besoin le plus grand n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. » Donc, notre besoin le plus grand, ce n'est pas toutes ces choses-là, c'est quelqu'un. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans tous ces cadeaux qui nous sont offerts sur la terre, mais bien dans le généreux donateur. Donc, le véritable bonheur, c'est dans celui qui donne et non pas dans le cadeau qu'on reçoit. Hein? Donc, et aussi, si Dieu est ma joie, je vais être porté à l'adorer. On est porté à adorer qu'est-ce qu'on aime. Et je n'adorerai pas qu'est-ce qui me rend pas heureux, qui ne me rend pas heureux. Et supposément, le jeune homme qui tombe amoureux de sa blonde, pour lui, c'est facile de la louanger. Elle est belle et fine. Elle dit telle affaire. Oh, wow, elle s'exprime bien. Tout ce qu'elle a, c'est beau. Okay? À un moment donné, il va se réveiller. Mais nous, avec Dieu, on peut le louer, c'est vrai, ça va toujours être beau. Je ne dis pas ça en rapport avec mon épouse, parce qu'elle a beaucoup de qualités qu'elle avait avant de se marier, puis qu'elle les a encore. Des fois, je dis qu'elle a du goût, vous savez pourquoi. Donc, notre Dieu est une personne joyeuse. Donc, quand je suis près de lui, il me communique sa joie. Je vais encore vous citer M. David Platt. Il dit, « Venir à Jésus, c'est goûter et voir combien il est bon de trouver en lui l'assouvissement de tous nos désirs. » Quand il dit ça, c'est quasiment trop, hein? Assouvir tous nos désirs, mais nos bons désirs. Et quand je viens de vous lire, le psalmiste disait, « Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison ou de ton temple. Bon, » nous nous rassasirons. Donc, c'est un peu ça ici. Assouvir tous nos désirs, nos bons désirs. Donc, on continue. Croire en Jésus, c'est éprouver un bonheur bien supérieur à tous les plaisirs éphémères de cette vie, un bonheur éternel. Donc, c'est commencer à goûter tout de suite au bonheur éternel qu'on va avoir dans sa présence. Donc, commencer à goûter à cette joie-là. Une autre chose que nous avons, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, dans le psaume 67, versets 2 et 3, c'est la bénédiction, la bonté. On va lire le texte. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Donc, on demande à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Donc, ça va ensemble. Bénédiction, face de Dieu qui brille sur nous. Verset 3. Afin que l'on connaisse sur la terre, donc pas au ciel, descend sur la terre, ta voix, sur ta direction, ta volonté, et parmi toutes les nations, ton salut. Donc, l'évangélisation, salut des non-croyants. Et ici, il dit parmi toutes les nations, en sens que c'était des Juifs, c'était un Juif, puis à ce moment-là, on ne parlait pas du salut des nations, hein. C'était juste le peuple élu, le peuple juif. Mais David, inspiré par l'Esprit, il parle du salut de toutes les nations extérieures d'Israël. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle du salut des païens, des non-juifs, c'est-à-dire de nous. Okay? Donc, la chose qu'on va regarder, c'est sa bénédiction, qu'il nous bénisse. Donc, ici, ça fait référence à nos besoins physiques, santé, finances, on lui demande qu'il nous fasse du bien. Le problème qu'on a, nous, des fois, c'est que Seigneur bénis-nous, puis on regarde juste à ce qu'il nous donne, à nos besoins physiques, et on dit des fois, ça c'est plutôt chercher la main de Dieu qui donne, plutôt que de chercher sa face et l'intimité. Et lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus récitait le Notre Père. Et ils ont dit, Notre Père, le début, ça parle juste de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et à la fin, donne-nous notre pain aujourd'hui. Donc, nos besoins viennent à... Mais nous, lorsqu'on prie, c'est... On vit ça à l'envers. On donne-nous nos affaires, après ça, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Et il y a un danger à rechercher uniquement ce que Dieu nous donne. Vous avez sans doute entendu parler de l'évangile de la prospérité, qui est un faux évangile qui encourage à chercher Jésus pour avoir la richesse et la santé, juste chercher les dons de Dieu. Donc, je crois qu'on doit présenter Jésus comme celui qui comble notre âme, même si on n'a pas la santé, on n'a pas la richesse, on n'a pas la prospérité. Jésus est le plus précieux des dons. Et si on lit le Nouveau Testament, on voit bien que c'est l'apôtre Paul a souffert, l'apôtre Paul était malade, et c'est Jésus qui était son bien le plus précieux. Il n'a jamais encouragé à devenir plus riche. Hein? Il disait, on nous considère comme pauvres, mais nous sommes riches. Mais sa richesse était en Jésus. Aussi, on voit parmi toutes les nations ton salut. Donc, afin qu'il fasse connaître le salut, ici, on parle d'évangélisation. Donc, l'Esprit Saint, ici, à travers David, dit que toutes les nations vont être sauvées, qu'on doit chercher la face de Dieu, peuvent être sauvées, ou qu'il y a des appelés parmi toutes les nations. Ensuite, on dit, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Donc, fais luire sur nous ta face, afin qu'on connaisse ta voix. Et ta voix, ici, ça fait référence à le suivre, à nous protéger du péché, aussi à nous faire prendre des décisions qui vont l'honorer. Il me guide. Et comment je marche dans sa voie? Et sa voie, hein, c'est pas... Au début, j'avais écrit « ses voies », mais c'est sa voie. Donc, il y a une voie que Dieu veut pour nous. Et il n'y a pas 50 vérités. Et la meilleure façon de marcher dans sa voie, c'est de commencer par lire sa parole. Connaître sa parole, la lettre qu'il nous a laissée, le manuel d'instruction pour le connaître. Et pas simplement la lire, se limiter à la lire et après l'oublier, mais la mettre en pratique si on veut marcher dans la voie qu'il a tracée. Aussi, chercher sa voie, c'est désirer le connaître davantage, désirer plus d'intimité et le laisser me guider par sa parole. Et lorsqu'il me montre quelque chose qui touche mon cœur, ne pas résister. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y en a-t-il ici qui se sont déjà perdus en forêt? Perdus, là? Ouais. Ah, il y en a. Ben, vous êtes bon. Ça m'est arrivé de me perdre. Et je vais vous conter un peu pourquoi. Et l'analogie, c'est de retrouver le sentier ou de retrouver le chemin. Et comment on peut faire lorsqu'on est perdu dans la brume? Comment on peut faire pour se retrouver. Et c'est peut-être ça qu'on vit, vous vivez ça dans votre vie actuellement. C'est de la brume, vous ne connaissez pas la direction de Dieu pour votre vie et vous voulez savoir que Dieu vous montre sa volonté. J'étais à la chasse avec des amis en Gaspésie il y a plusieurs années et on avait fait un bout de chemin ensemble. Eux, il y avait un tracteur de ferme avec une remorque, j'étais dans la remorque, puis à un moment donné, ça ne passait plus à tracteur, et ils ont arrêté là, on vire de bord. J'ai dit, je peux te déranger, je reste ici, moi je vais continuer un petit bout à pied, je peux marcher à pied, puis je vais revenir sur mes pas, revenir au camp de chasse, à 2-3 kilomètres de là. C'est beau. Fait que je débarquais là, puis j'ai continué un petit peu, regarder un peu les traces, les lièvres, ou rigneaux, chevreuils, j'ai rien vu. Là, je suis revenu. Maintenant, en revenant, je me suis aperçu, ah, j'ai passé ici tantôt. Moi, que je refais encore, essayer de me suis trompé, je pense, là, je ne me tromperai pas. Je reviens à la même place. Là, le cœur a commencé de poutoum, poutoum, poutoum. J'ai perdu, là. Il n'y a pas. C'est loin parce que. La façon que c'est fait en Gaspésie, c'est qu'il y a comme le fleuve, on appelle ça la mer là-bas parce qu'on ne voit pas beaucoup l'autre côté. Avec la route 132, quelques maisons. Ensuite, c'est de le bois, jusqu'à le côté de la Gaspésie. Mais au milieu, il y a les chaînes de montagne, là, les Appalaches, on appelle ça les chic-chocs, qui sont là. Donc, il y a la fleuve et les chic-chocs en arrière. Fait qu'habituellement, quand pour me retracer, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, moi, là? J'avais plus de chemin, il fallait que je m'en aille vers la mer, vers la civilisation, qui est peut-être à une quinzaine de kilomètres de là. Le camp était à 3-4 km, mais j'avais perdu, je ne savais pas du tout comment y aller. Mais si je me rapproche de la mer, de la route 132, bien au moins, on va voir la civilisation là. Mais il fallait que je m'oriente. Et pour s'orienter, il faut trouver le nord. Habituellement, Gaspésie, pour trouver le nord, nord-ouest, on regarde la fleuve. Mais là, je ne le voyais pas, j'étais dans le bois. Aussi, on peut regarder où j'étais, les montagnes. Mais il y avait la brume. Habituellement, je voyais les grosses montagnes, on les voyait quasiment tout le temps. Il y avait la brume, fait que je ne les voyais pas. Et aussi, il y a le soleil. Avec le soleil, en fonction de l'heure, le soleil, tu sais à peu près où est le nord. Il y avait la brume, pas de soleil. Je n'avais pas de boussole non plus dans mes poches, parce que ce n'était pas prévu que je laisserais les gens. Fait que, on va vous montrer, ça ressemblait un peu à ça. Le bois était peut-être plus mixte. Et ici, on avait juste des conifères, donc il y avait bois feuillu et conifères. Donc, il fallait que je me retrouve. Fait que, puis une chose que je ne savais pas à l'époque, c'était qu'on peut trouver l'orientation en regardant la mousse sur les arbres. Parce que l'endroit où l'arbre, où il n'y a pas de soleil, bien souvent, il se fait de la mousse. Donc là, tu dis, la mousse, c'est habituellement du côté est. Justement, j'ai pris une photo hier d'un arbre chez nous, à ma cour. Voyez-vous, on voit la mousse verte du côté où est l'ombre. Il est à peu près 4h, 4h30. Donc, tu vois, le soleil le plus puissant ne va pas vers là. Donc, habituellement, la mousse est du côté est. Mais si vous faites ça, il faut regarder, je ne vais pas vous induire en erreur, ça peut être de l'ombre qui vient des autres arbres aussi. Il faut que l'arbre soit un arbre qui est dégagé, qui n'a pas d'ombre des autres. Que ce soit sa propre ombre qui le cache du soleil, là, on a le bon côté, la mousse est à l'est. Donc, tombe dans la brume, qu'est-ce que je fais? Que j'ai pensé, j'ai dit, bon, la mer est certainement plus basse qu'où je suis, donc il faut que je descende. Je n'étais pas sur la montagne, mais on était quand même à certaines altitudes parce qu'il y avait neigé quelques jours avant. Donc, il faut que je descende. Fait que là, vous voyez, il y a comme une coulée, là. Fait que je suivais les coulées, les petits ruisseaux, tout ça. Je me mouillais, là, presque jusqu'à la ceinture. Ça marchait. Il marchait très, très vite parce que on marchait ensemble. Et je suis arrivé à un moment donné sur... J'ai croisé un chemin qui était plus... grand, on voyait qu'il y a des camions qui avaient circulé quelques reprises. Bon, je me suis passé ici, il y avait d'autres chasseurs. J'ai embarqué là-dessus et je me suis rendu à un camp, il y avait des chasseurs qui étaient là. Puis quand je suis arrivé, là, il faisait noir. C'était juste à la limite là, que je puisse plus, je suis obligé de me cacher quelque part pour la nuit. Là. Donc, ils m'ont accueilli, puis eux connaissaient le territoire, ils étaient venus là depuis longtemps, ils savaient où était le camp de mes amis et ils sont venus me reconduire. Et mes amis étaient en peur, là. Mon frère, il est venu en moto essayer de me retrouver, tout ça. Là. Donc, l'analogie que je veux faire, c'est quand je cherche la direction de Dieu et sa volonté dans ma vie. Est-ce que ça vous arrive d'être désorienté, de ne pas savoir ce que Dieu veut pour vous? La première chose, c'est la boussole que je n'avais pas. La boussole, moi, je compare ça à la parole de Dieu qui nous dit où est le nord, où est la vérité, hein? Moi, je peux penser que le nord est là, mais si je pouvais une bonne boussole, la boussole ne la trompe pas. Et la Bible est la boussole. Donc, connaître la volonté de Dieu face à un péché ou une décision, regardons dans la parole de Dieu. Deuxième chose que j'aurais voulu utiliser, c'était le soleil, mais il n'était pas là, le soleil. Donc, le soleil, je compare ça à la lumière que Dieu nous donne, sa face, sa lumière qui éclaire notre sentier, qui aurait pu me guider. Et donc, cherchons sa volonté dans la parole de Dieu. Demandons que son esprit nous éclaire par sa lumière pour connaître ce qu'il veut pour nous. Pour vous donner un exemple aussi, lorsque Dieu vient à sa place, on dirait que les choses se mettent en ordre dans notre vie. Les choses qui étaient en désordre. Prenez un mobile, un mobile pour enfant, là. Vous le mettez par terre, tout est mélangé. Puis là, vous le levez, là, puis les choses se mettent en place toutes seules. Hein, j'en ai pris un pour vous. Donc, c'est un petit mobile. Vous voyez, si on le met à plat, tout est mélangé. Et si on le lève, toutes les choses se mettent en place. Et lorsque je lève mon cœur vers Dieu, Dieu, c'est comme c'est pour qu'il met les choses tout en place. La parole de Dieu dit dans Psaume 84, 4, 6, heureux. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, on trouve dans le cœur des chemins tout tracés. Et ça m'est arrivé à l'occasion, je me rapprochais du Seigneur, j'ai comme, ben oui, il me montrait telle affaire, ben oui, je savais ça. C'est comme s'il nous fait réaliser, il fait mettre des choses en place dans notre cœur, il nous fait réaliser des choses qu'on n'avait pas réalisées. Donc, oui, si on met notre appui sur Dieu, il va nous aider à trouver en nous des solutions, des fois qu'on a j'avais pas pensé à ça, c'est vrai, des chemins tout tracés. Donc, lorsqu'on demande à Dieu qu'il nous dirige à prendre la décision qu'on l'a glorifié, il le fait, il nous aide à lui obéir. Donc, beaucoup de choses se mettent en place lorsqu'on se rapproche de Dieu, les choses complexes peuvent devenir plus simples. Et le Seigneur, malgré cela, je peux consulter le Seigneur, puis lire ma Bible, puis je trouve rien. Je suis encore dans la brume. Okay? Pour raconter une autre histoire, ça te dérange-tu? Non? Okay. Moi aussi, j'aime ça. Mais Jésus racontait des histoires aussi. Et moi, je comprends aussi avec ça. Donc, c'est plus facile de garder en mémoire ou de comprendre. Bon, j'ai étudié à Sherbrooke, alors j'ai 20 ans, je suis parti de la Gaspésie pour aller étudier à Sherbrooke, 8 heures de route, étudier en droit. Puis, c'est là à Sherbrooke que j'ai connu le Seigneur m'a sauvé, dans les ministères d'Église baptiste évangélique de Sherbrooke. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, à Sherbrooke. Et, au début de nos fréquentations, Marjolaine m'avait demandé, Yvan, là, on est au début, là, je sais que toi, là, t'es pas un gars de Sherbrooke, hein? Et quand tu vas finir tes études, parce que j'ai achevé, est-ce que tu vas retourner en Gaspésie? Parce que là, toute sa famille était là. Et à ce moment-là, mon désir, c'était non. J'avais connu le Seigneur à Sherbrooke. J'avais une bonne église là, beaucoup d'amis. Marjolaine était là en plus. En Gaspésie, j'avais perdu beaucoup d'amis parce que j'étais plus le fun comme avant. J'étais moins de party que j'étais. Fait que, non, c'était plus facile pour moi, je crois, de trouver un travail à Sherbrooke. Fait que non, j'ai dit, je vais rester à Sherbrooke quand je vais terminer mes études. Fait que là, elle n'a pas eu peur de s'attacher à moi. Okay? Mais, à la fin de mes études, plus ça avançait, plus le Seigneur me mettait à cœur de tourner en Gaspésie. Ma chère me disait, reste à Sherbrooke. Facile. En Gaspésie, tes parents ne sont pas sauvés, tes frères, tes sœurs. Puis il y a une petite assemblée là-bas qui se réunit dans un sous-sol. Peut-être qu'il y aurait besoin que tu ailles aussi. Moi, je sais bien. Là, ça me travaillait, ça. Là, il dit, Seigneur, ouais, mais j'ai parlé à Marjolaine aussi. J'ai dit que je ne m'en irais pas. Et ça fait que j'ai réfléchi. Ça faisait quelques semaines que j'étais ça dans la tête. Et je suis allé, en réfléchissant, m'en est allé prendre une marche. Où je demeurais, j'étais tout près du Mont Bellevue à Sherbrooke, une belle petite montagne. Et comme fidèle à mon habitude, j'ai sorti du sentier. mais j'avais pas peur parce que je savais que c'était pas gros. Il y avait un côté, il y avait une piste de ski, l'autre côté université, un autre bord c'est résidentiel, puis l'autre bord c'est une route. Je me dis, si je me perds une demi-heure dans la même direction, je vais arriver dans quelque part. Mais j'étais pas mal sûr où je m'en allais. Sauf que, à un moment donné, j'étais moins sûr. Okay? Là, lui, comme ça, avoir des doutes. Puis là, ouais, le Seigneur et moi me diriger. Là, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête, à basse altitude. Wow. Puis là, j'ai pensé, hey, le pilote dans l'avion, lui, là, il voit tout ça, lui, là. Il voit où est l'université, la piste de ski, il voit tout. Il pourrait me dire, hey, Yvan, on parle là. Et là, j'ai pensé, hey, c'est comme Dieu, ça. Il voit tout, là. Il voit tout dans ma vie. Et lui, il va me dire, hey, Yvan, c'est là, il faut que tu ailles, je vois tout. Pas de problème. Ça m'a comme rassuré. Je dis, ouais, c'est vrai. Là, je ne le sais pas, là, mais Dieu va me guider. Je continue à faire confiance à Dieu. J'étais dans la brume au niveau de mes choix, mais Dieu va me guider. Et je n'ai pas eu de misère à sortir. Je me rappelle plus trop. Je n'ai pas été dramatisé parce que je me rappelle même traumatisé, parce que je ne me rappelle même pas comment je suis sorti de là. Ça n'a pas été compliqué. Mais l'épreuve à venir, là, il fallait que j'en parle à Marjolaine. Fait que, pas longtemps après, j'ai dit, quand le Seigneur m'a fait réaliser que oui, je veux que tu ailles en Gaspésie, puis ça commençait à te faire pas mal. J'ai dit, ben, chérie, on avait parlé que... J'avais peur qu'elle prépare son note de baseball, là. Donc, j'irai rester à Sherbrooke après mes études, mais là, elle me parle depuis quelques semaines, puis là, je ne sais plus. Là, comme ça me dit, il faudrait que tu ailles en Gaspésie, là, ça serait mieux. Puis... Ben, elle dit, sais-tu, elle dit, moi aussi, Seigneur me parle. Elle dit, oui, Seigneur me met ça à cœur aussi. C'est pas mon premier choix, mais Seigneur me met à cœur d'aller en Gaspésie pour aller avec toi, pour évangéliser tout ça. Ouf! Quel fardeau tombé. Je me sentais comme pas en aide de ce que j'avais dit. Dieu changeait mon cœur. Le Seigneur a changé son cœur en même temps que le mien pour lui permettre qu'on soit d'accord et qu'on aille là-bas. Je ne peux pas dire que c'était facile pour elle. Elle s'est ennuyée de sa famille. On est arrivé au mois de janvier. Trois tempêtes la même semaine. On restait dans le sol. On trouvait le temps long. Un poste de radio. Donc, on voit comment le Seigneur dirige, mais en son temps. La prochaine fois que je vais prêcher, je vais parler plutôt de son intimité. Encore, peut-être aller un petit peu plus loin encore, parce que là, j'ai parlé de chercher sa face pour les choses qu'il nous donne, sa direction, sa bénédiction, toutes ces choses-là, la joie. Donc, ça va être le verset 35, verset 4. Oups. Je l'ai perdu. Il dit « chercher continuellement sa face ». Donc, continuellement, c'est quoi? Et je vais simplement, c'est pas compliqué, je vais poser quatre questions. Qui doit chercher la face de Dieu? Quand chercher la face de Dieu? Pourquoi? Comment? Des fois, que lorsqu'on a un texte où on cherche quelque chose, on pose des questions, ça nous aide à sortir un peu de jus. Donc, ça va être ça, là. Merci pour le PowerPoint. Donc, rechercher l'Éternel de sa force, c'est chercher continuellement sa face. Pour rendu là, continuellement. Donc, on travaille là-dessus. Et pour montrer qu'on va... parler là-dessus la prochaine fois, je ne sais pas quand. Ce matin, je remplace Jocelyn, il est possible que Jocelyn prêche la semaine prochaine. Okay. Je vous laisse avec un verset. Tous mes autres versets étaient dans les psaumes. Ici, dans Hébreu, 4, verset 16, « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce. » Ainsi, c'est s'approcher d'un trône. Et lorsqu'on parle d'un trône, on parle d'un roi. Et dans l'Ancien Testament, ou dans le monde ancien, on se souvient de la livre d'Esther, lorsque Esther voulait s'approcher du roi pour lui demander d'épargner le peuple juif, elle risquait de mourir. Parce que quand tu n'avais pas été appelé, puis tu allais toi-même te présenter devant le roi, c'était la mort, à moins que le roi te dise « OK, qu'est-ce que tu veux? » Donc, c'était vraiment... Alors que nous, lorsqu'on se présente devant notre roi, il dit avec... approchons-nous du trône de Dieu avec de grâce, avec une pleine assurance. Donc, on y va avec assurance, pas avec peur, pas avec les tremblements. Et on parle d'un Dieu de grâce aussi, un Dieu qui, ici le mot grâce veut dire qu'il nous fait grâce pour nos péchés. Donc, c'est pas nos péchés, ils sont pardonnés, il nous a fait grâce, on peut s'approcher de lui. Et on s'approche du trône, donc c'est quelqu'un qui est vraiment puissant de grâce. Avec assurance, comme je disais, parce qu'il nous aime. Ensuite, on a « là ». Et le mot « là », je l'ai souligné. Peut-être que vous vous rappelez d'un mot aujourd'hui, ce serait le mot « là ». Dire c'est drôle, hein? Parce que « là », c'est là où Dieu est, là où Dieu est présent, là où est son trône. Approchez-vous de là où est Dieu. Donc, c'est parce que là, c'est là que ça se passe. OK? Donc, là, Dieu nous accordera sa bonté. Donc, c'est là que ça commence. Il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secoureux au bon moment. Ici, sa grâce, deuxième grâce, c'est dans le sens de sa puissance, son soutien, que nous soyons soutenus ou secourus. Donc, Dieu veut vous secourir, vous soutenir quand? Certaines versions disent au moment opportun. Ici, c'est la version sommaire, je crois, qui dit au bon moment. Donc, Dieu va nous... Ne soyons pas angoissés. Peut-être que vous êtes arrivé ici avec un fardeau ce matin, angoissé, peur... épreuve, de maladie, comment ça va finir? Ça finit pas. Plus ça va, plus ça empire. Ma santé ou sa santé, la personne que je connais, plus ça continue de percer. Même si c'est guéri, je ne sais pas si ça va guérir. C'est dur. Mais Dieu nous dit, Il va secourir en temps opportun. Et Dieu peut nous appeler à souffrir, et ça va être la mort qui va nous libérer, mais Dieu peut nous libérer sur terre aussi. Mais Dieu va nous secourir dans cette épreuve-là et dans le fardeau que vous traversez. Et on a tous des épreuves. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas d'épreuve. Et c'est voulu par Dieu pour nous garder près de lui. Pour pas qu'on s'attache à cette vie ici, mais qu'on s'attache à lui et qu'on trouve notre satisfaction, notre secours, notre paix en lui. Parce que lui, il nous aime, puis il veut qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Et qu'est-ce qui permet actuellement qu'on trouve difficile? C'est ça qui est mieux pour nous? Ah oui? Ah oui, c'est ça que Dieu dit. Et l'apôtre Pierre disait, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il ne dit pas « J'envoie un ange », il dit « Lui-même prend soin de vous. » Donc, ça vaut la peine. Si vous voulez, on va penser au pilote dans l'avion. Il est Dieu qui voit toute votre vie. Toute votre vie, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, quelle direction vous devez prendre, si vous devez attendre. Dieu, il est là et il intervient au moment opportun. Si vous voulez, on va terminer dans la prière. François peut s'approcher si tu veux. Seigneur, merci parce que tu es là et tu nous dis que tu nous secours au bon moment. Et ton secours peut être une délivrance de l'épreuve ou ça peut être le soutien que tu nous donnes, Seigneur. Et c'est souvent ça de nous soutenir dans les épreuves qu'on traverse. Parce que toi, tu es plus grand que tout ce qu'on peut vivre. Seigneur, nous avons tous des besoins et nous voulons te les remettre. Et Seigneur, nous savons que tu t'en occupes. Nous voulons t'abandonner notre vie. Et merci, Seigneur, de nous donner cette joie merveilleuse en retour. Et Seigneur, puisses-tu vraiment intervenir dans nos vies, par ton esprit, nous toucher, nous montrer ta face, combien tu es grand. Seigneur, nous invite à nous approcher de ton trône de grâce. On n'a même pas te demandé d'y aller. C'est toi qui nous invites, Seigneur. On veut répondre à ton invitation. On veut s'approcher à toi, Seigneur, demander ton soutien, voir ta face, Seigneur, parce que tu es suffisant en toutes choses. On veut terminer en priant pour le peuple haïti qui est éprouvé énormément, au-delà de presque ce qu'on peut imaginer. Et on te prie de les soutenir, Seigneur, dans l'épreuve qu'ils vivent actuellement, de penser les plaies physiques, les plaies morales, spirituelles. On te prie, Seigneur, de les soutenir et de faire que ton peuple, surtout ceux qui sont croyants, s'accroche à toi en toutes choses là-dedans et puisse continuer à te glorifier malgré l'épreuve. On le prie dans le nom de Jésus. Amen.